RFI 23h à Paris, 22h en temps universel.
24h en France.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure d'information consacrée à l'actualité française.
Christophe Paget.
Procès des geôliers du groupe État islamique. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise ce soir sans surprise contre Medine Emouche. À suivre le compte-rendu d'audience de Laura Martel. Le conclave sur les retraites a du plomb dans l'aile. Mardi, l'organisation patronale U2P est partie. La CGT menace de claquer la porte. La CFDT reste, mais estime que le contrat est rompu. Mais le gouvernement maintient son cap, nous dira Stéphane Duguay. Et puis, depuis 3 mois et les ravages du cyclone Chido, les Français de l'Hexagone sont venus en aide à ceux de Mayotte. Beaucoup d'argent a été collecté, mais certains des dons sont bloqués au port à cause de frais de douane. Sylvie Coffi fera le point.
24 heures en France.
Dans 12 minutes, nous avons rendez-vous avec les Frères Lumière, qui tournaient il y a 130 ans jour pour jour, le tout premier film de cinéma. Un film sort ce mercredi, il rassemble une centaine de vues qu'a tourné un des frères un peu partout dans le monde entre 1895 et 1905. Quant au Conseil Santé, il se penche ce soir sur les hépatites. Comment renforcer la lutte contre ces maladies infectieuses ?
RFI.
En France, à Paris, au procès des geôliers du groupe État islamique, sans surprise, c'est la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 22 ans de sûreté, qui a été requise ce soir contre Medine Emouche. Le tueur du musée juif de Bruxelles est poursuivi avec 4 co-accusés pour son implication présumée dans la séquestration d'otages occidentaux en Syrie entre 2013 et 2014 et les actes de torture et de barbarie qu'il leur aurait infligés. Pour les 4 autres accusés, dont 2 sont présumés morts, des peines de 20 ans d'emprisonnement à la perpétuité ont été prononcées. Laura Martel.
Medine Emouche est l'un des djihadistes les plus pervers et cruels de ces 10 dernières années, au milieu d'un palmarès malheureusement particulièrement fourni, un sociopathe dénué de toute empathie mais doté d'une véritable intelligence, cingle d'emblée l'avocat général, tout en mettant en garde contre toute starification de l'accusé. Au nombre des éléments à charge, il y a bien sûr les témoignages des ex-otages. Tous ont reconnu la voix, le phrasé, mais surtout les obsessions de l'accusé, son antisémitisme incarné dans son admiration pour Mohamed Merah, ses marottes, de la guerre en Bosnie à Charles Aznavour, en passant par les grandes affaires criminelles. Une reconnaissance formelle, constante et répétée, corroborée par l'ensemble des investigations, résume Benjamin Chambre, qui insiste notamment sur ces vidéos du centre de torture d'Alep, qui confortent l'identification de Medine Emouche et confirment son rôle de geôlier. Et de railler les dénégations jusqu'à l'absurde de l'accusé, signe selon lui de sa grande lâcheté. Contre cet homme à la dangerosité extrême et persistante, Benjamin Chambre demande une peine à la hauteur de sa personnalité, ses antécédents et ses crimes odieux, une peine qui protège définitivement notre société. Il conclut face à celui qui rêvait de devenir le héros de l'émission Faites entrer l'accusé, il conviendra par votre décision que vous fassiez oublier l'accusé.
Laura Martel, et comme je le disais, pour les 4 autres accusés, dont 2 sont présumés morts, des peines de 20 ans d'emprisonnement à la perpétuité ont été requises. Ce jeudi, ce sera au tour de la défense de prendre la parole.
24 heures en France.
Les discussions entre les syndicats et le patronat sur la réforme des retraites vont-elles se poursuivre ? La prochaine est fixée à demain, jeudi, 14h précise. Mais après Force Ouvrière, dès le début de ce conclave, le 27 février, l'organisation patronale l'U2P est partie mardi. Et maintenant, c'est la CGT qui menace de claquer la porte. La faute aux déclarations de François Bayrou, le Premier ministre, qui a exclu la possibilité d'un retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Même la CFDT, syndicat clé dans cette négociation, estime que le contrat est rompu et veut s'affranchir des règles fixées par le Premier ministre pour ces négociations. Mais le gouvernement maintient son cap. Stéphane Duguay.
Malgré les déclarations du Premier ministre sur l'âge de départ à la retraite, rien ne bouge, jure devant les députés la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet.
Les règles du jeu ne changent pas. Nous pensons que ces discussions doivent se poursuivre et aller jusqu'à leur terme.
Quitte à ouvrir la discussion à d'autres sujets, dit-elle, mais elles doivent rester guidées par l'impératif d'équilibre des finances publiques, affirme le député macroniste Jean-René Cazeneuve.
Ceux qui disent qu'on peut travailler jusqu'à 62 ans mentent aux Français. La démographie fait que, hélas, il faut travailler plus. C'est une vérité qui s'impose à nous.
Pour lui, ce conclave des partenaires sociaux a encore une légitimité, mais au sein de l'alliance gouvernementale, des voix contraires se font entendre. Le député Horizon, Frédéric Valletoux, demande l'arrêt de ces réunions.
On est dans une période de crise internationale. L'économie française est interrogée sur sa capacité à se réarmer. C'est ça les questions de fond. C'est pas la question de revenir sur une réforme qui, bon an mal an, a déjà été votée.
Sauf que ces négociations devaient aboutir sur un texte présenté à l'Assemblée nationale, condition pour que les socialistes ne renversent pas le gouvernement, rappelle la députée Diana Badiop.
Le débat doit revenir au sein de l'Assemblée nationale. Et si ça n'était pas le cas, s'il n'y a pas d'autre moyen que de faire entendre raison au Premier ministre, oui, on votera la censure.
Alerte sérieuse pour François Bayrou, dont l'avenir politique est conditionné à ces négociations sur les retraites.
La proposition de loi de Gabriel Attal sur la justice des mineurs a été nettement amoindrie en commission parlementaire aujourd'hui. L'initiative de l'ancien Premier ministre vise, selon ses mots, à restaurer l'autorité de la justice vis-à-vis des mineurs délinquants. Il doit être examiné mardi prochain dans l'hémicycle, mais ce mercredi, plusieurs des mesures phares ont été supprimées, comme la sanction des parents ou la comparution immédiate des mineurs. Marie Barzac réagit à la polémique autour du port du voile. La ministre des Sports avait été convoquée hier chez le Premier ministre François Bayrou, alors qu'elle était en route pour la Grèce où elle participe à la session du Comité international olympique. Marie Barzac n'était pas d'accord avec ses homologues de l'intérieur, Bruno Retailleau, et de la justice, Gérald Darmanin, sur la proposition de loi des Républicains portant sur l'interdiction des signes religieux dans le sport. Ce mercredi, elle a précisé sa pensée et elle dément au passage tout recadrage par le chef du gouvernement.
Les insignes religieux n'avaient pas leur place dans les compétitions officielles des fédérations délégataires de services publics. Nous avons tous partagé cette position hier dans le bureau du Premier ministre et c'était clair et c'était effectivement bien de se le dire. C'est pas un recadrage, c'est une discussion entre des personnalités du gouvernement qui avaient un intérêt sur ce sujet. Mon point de vue, et c'est ce que j'ai défendu à plusieurs reprises, c'est de dire qu'il y a une interdiction qui se limite aux compétitions officielles. Le sport est un lieu d'émancipation, moi j'en suis la première convaincue et en tant que ministre des Sports, c'est, pour moi c'est important. C'est important que le sport puisse accueillir tout le monde. Maintenant, il y a une règle sur les compétitions officielles qui est claire. Et encore une fois, quand on participe à une compétition officielle, eh bien, on porte la tenue de son club.
Marie Barzac au micro de Christophe Diremzian. Voilà qui ne devrait pas améliorer les relations déjà très tendues entre la France et l'Algérie. La justice française refuse d'extrader Abdeselham Bouchouareb, qui a été ministre de l'Industrie et des Mines en Algérie de 2014 à 2017. Alger le réclame depuis 18 mois, afin entre autres qu'il exécute 5 peines d'emprisonnement de 20 ans chacune. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé en raison de l'état de santé et de l'âge d'Abdeselham Bouchouareb. C'est le 6e refus de la justice française, ce qui met fin à la procédure. Après le cyclone Chido qui a dévasté il y a 3 mois Mayotte, les Français de l'Hexagone sont venus en aide à ceux de l'archipel. La Fondation de France a ainsi collecté 42 millions d'euros. Mais certains de ces dons acheminés sont aujourd'hui bloqués au port à cause des frais de douane. Sylvie Coffi.
Professeur de sport à Mayotte, Brieux-le-Bévert a mobilisé toute sa communauté pour venir en aide aux Mahorais. Il a collecté 60 mètres cubes de vêtements qui sont bloqués au port depuis un mois. Les droits portuaires qu'on lui demande s'élèvent à plus de 5 000 euros.
C'est incompréhensible ce qui se passe. On comprend pas pourquoi le préfet nous refuse la réquisition des conteneurs pour qu'on puisse récupérer nos dons gratuitement. Sauf que à un moment, ce sont des dons que les personnes sur place ont besoin. Que ce soit nos vêtements comme les conteneurs où il peut y avoir de l'eau, de la nourriture, c'est des choses que les gens sur place ont besoin parce qu'on ne les trouve pas dans les magasins et on ne comprend pas pourquoi c'est bloqué.
Alerté, le sénateur Saïd Omaroli pose la question au gouvernement en séance publique. Réponse du ministre chargé des relations avec le Parlement.
La réquisition s'inscrit dans un cadre juridique précis lié à l'urgence et à des impératifs d'ordre public. Sur l'acheminement des dons, je rappelle l'importance pour les donateurs de prévoir autant que faire se peut les frais dans leur intégralité, notamment transitaires ou de manutention. Rappelons que suite à Chido, les biens destinés à l'aide aux victimes peuvent être exonérés de droits de douane.
L'exonération prévue par l'État a été appliquée à hauteur de 80 euros. Pour l'instant, il n'y a aucune solution pour ce professeur, à part payer la note et les taxes qui continuent à grimper chaque jour.
Le corps d'un migrant a été repêché ce mercredi dans la Manche, près de Boulogne-sur-Mer. Plusieurs autres migrants, qui eux aussi ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni, ont été hospitalisés, dont un adolescent en état d'hypothermie. C'est le 7e décès depuis le début de l'année dans ces tentatives de traversée de la Manche. Ce mercredi se tenait à Paris la 2e édition du Salon de l'Emploi pour les réfugiés. Un salon organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris et TENT, un réseau de 45 grandes entreprises qui s'engagent à améliorer l'employabilité des personnes réfugiées. Avec plus de 600 000 réfugiés en France et dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs, la rencontre des entreprises et de ces personnes réfugiées semble évidente. Pourtant, sur le terrain, ce n'est pas si simple. En cause, la barrière de la langue, le manque de réseau ou encore les lourdeurs administratives. Reportage Charlotte Cosset.
Vous allez trouver les entreprises comme la BNP.
Cette Congolaise a obtenu son statut de réfugiée il y a 3 ans. Elle s'est formée au métier de la cuisine, un secteur sous tension, pourtant difficile de trouver du travail.
J'ai postulé en ligne, mais il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai postulé beaucoup.
10, 20,
même 40. Hein.
Aucune réponse.
Ok, il y a réponse, il n'y a pas de place, madame.
Parmi les exposants, IDEX, spécialisé dans l'énergie, son coordinateur RSE, Anthony Lanluc, précise que l'entreprise dispose actuellement de 600 offres d'emploi dans toute la France, des métiers souvent techniques pour lesquels ils ont du mal à recruter.
C'est difficile, c'est pour ça qu'on s'ouvre à d'autres types de profils. On a des freins et des barrières un peu naturellement, mais je pense qu'il faut poser des questions et creuser un petit peu, et même parfois les candidats ne parlent pas de certaines expériences qui peuvent intéresser sur le poste.
Pour les entreprises qui auraient encore des réticences, Yasmine Leroux, directrice de Tent France, souligne l'apport des personnes réfugiées.
Ils permettent d'améliorer la diversité dans l'entreprise et donc ses sources d'innovation. Nous constatons également que les personnes réfugiées, du fait de leur parcours, sont particulièrement fidèles à l'entreprise qui les recrute, sont particulièrement motivées et résilientes, et en général, ils ont des parcours assez notables dans les entreprises, donc c'est vraiment gagnant aussi d'un point de vue business.
Elle souligne également qu'il faut près de 10 ans à un réfugié pour retrouver un emploi à hauteur de sa qualification d'origine.
Un reportage signé Charlotte Cossé. L'État double l'enveloppe pour les intercommunalités pour qu'elles puissent financer leurs projets de transition énergétique et d'adaptation au changement climatique. L'enveloppe qui provient du Fonds vert est donc portée à 200 millions d'euros pour 2025, car les intercommunalités de plus de 20 000 habitants sont tenues d'élaborer des plans pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air ou encore se préparer aux sécheresses ou aux inondations. RFI 23h11 à Paris.
24 heures en France. Christophe Paget.
On sait quand a été tourné le premier film, le tout premier film de cinéma, il y a 130 ans, jour pour jour, le 19 mars 1895. C'était vers midi, à l'heure où les ouvriers sortent pour déjeuner. C'est la célèbre sortie des usines Lumière. Une vue de 50 secondes qui sera ensuite projetée quelques mois plus tard devant un public à Paris. Les frères Louis et Auguste Lumière inventent alors le cinéma. Une invention qu'ils mettent tout de suite à profit dans une véritable frénésie. Au total, les frères ou leurs opérateurs envoyés partout dans le monde tourneront quelques 2000 de ces vues destinées à être projetées. Thierry Frémaux est l'actuel directeur de l'Institut Lumière à Lyon. Il est aussi délégué général du Festival de Cannes. Et il a eu l'idée de faire restaurer et regrouper par thème 100 de ces vues Lumière, tournées entre 1895 et 1905 pour en faire un film. Lumière, l'aventure continue, c'est le titre, avec pour accompagner les images la musique de Gabriel Fauré, puisque le compositeur est contemporain des frères Lumière. Thierry Frémaux, au micro de Sophie Torlotin.
Il y a 130 ans, les frères Lumière inventaient le cinématographe. Tout était déjà là.
Thierry Frémaux, bonjour.
Bonjour.
Les frères Auguste et Louis Lumière ont inventé le cinéma en organisant la première projection publique à Paris en 1895. Alors vous, Thierry Frémaux, qui dirigez l'Institut Lumière de Lyon, en regroupant ces 100 vues Lumière, est-ce que c'est pour les montrer pour la première fois à un public 130 ans après leur premier visionnage?
Oui, disons que l'idée, c'est les faire revenir au cinéma. Il faut ramener le passé au présent. Même si Lumière n'avait pas été l'inventeur du cinématographe.
De la machine.
De la technique. Il aurait été l'un des grands cinéastes.
Vous parlez de Louis Lumière, hein, qui signe la quasi-totalité des vues, des séquences, 50 secondes. Parce que c'était la durée de la bobine, c'est ça?
Oui, il y avait 17 mètres de pellicule. C'était le format qu'à l'époque, même de son côté, Thomas Edison, avec son kinétoscope, expérimentait. Et avec des films lumière, on a fait un film lumière. Là, il fait 1h40. Ce qu'on avait oublié, dans beaucoup de clichés qui se sont abattus sur eux, il y croyait pas. Bah si, il y croyait. Il a produit et tourné 2000 films. Il était une sorte de Monsieur Jourdain du cinéma qui en faisait sans s'en rendre compte. Non, non. Il était photographe, il savait quand même ce que c'était qu'un cadre, une image. Et il y a la trace lumière qui dit d'emblée que le cinéma n'est pas une affaire d'image, c'est une affaire de plan. Il a écrit avec la caméra. C'est-à-dire beaucoup de films lumière, on ne peut pas les raconter. Il n'y a pas d'histoire. Mais par contre, c'est des grands films. Le cinéma de lumière est le cinéma de la simplicité, de la sincérité, d'une sorte d'innocence D'ailleurs, on revient au truc de Picasso qui disait « Toute ma vie, j'ai appris à dessiner comme un enfant ». Lumière, il y a un peu de ça. Il y a quelque chose, non pas de naïveté, mais d'ingénuité devant la beauté du monde. Que la caméra et cette pellicule 35 mm, en plus, ils ont foutu leur caméra partout, sur les bateaux, sur les trains, sur les tramways, pour essayer de créer du mouvement d'une autre manière. Aujourd'hui, le cinéma, c'est aller au cinéma. C'est les questions de cinéma, les questions que Louis Lumière et ses opérateurs se sont posées.
Où mettre la caméra ?
Qu'est-ce que je raconte ? Je veux le raconter comment ? Aujourd'hui, il y a les images partout, il y en a sur Internet, on voit même des gens décapités sur Internet. Le cinéma n'a jamais fait ça. Parce que le cinéma vous oblige à prendre vos responsabilités. Lumière, d'emblée, il envoie des opérateurs à travers le monde pour filmer ce qui ne lui ressemble pas. Quand New York est filmé, c'est la première fois que New York est filmé. Ce sont les premières images des ânes dans la ville du Caire, des felouks sur le Nil, des rues de Paris. Donc, il y a quelque chose de très universel.
Et donc, vous auriez matière à continuer l'aventure avec d'autres films, en montrant les autres que vous n'avez pas pu sélectionner ?
Oui, je pense qu'il y a encore d'autres films à faire. On va même lancer bientôt une plateforme, une sorte de Lumière Plus, pour que les gens puissent voir les films un par un, à leur manière. Et avec ce film-là, c'est une façon de dire « ça nous appartient, c'est l'histoire de l'humanité ».
Thierry Frémaux, merci.
Merci à vous.
Thierry Frémaux avec Sophie Torlotin. La fin de la trêve hivernale approche. Normalement, c'est le 31 mars. Ce qui veut dire que tous les propriétaires vont avoir le droit d'expulser les locataires de leur logement. Une situation que redoutent nombre de locataires qui parfois n'arrivent pas à payer leur loyer dans les temps. C'est le cas de Steve Rose, 39 ans. Il est en situation de handicap. Il vit dans un hébergement temporaire depuis 2020 avec les factures, les dettes et la peur d'être expulsé. Reportage chez Steve Rose de Louis Kahn.
Steve se déplace difficilement, une canne dans la main.
J'ai une maladie des os sous les deux hanches. Alors ça s'effrite et ça fait des trous et à tout moment, elles peuvent se casser.
Le trentenaire ne travaille plus. Il sort peu de son 30 mètres carrés qu'il partage avec son compagnon. Sur les murs peints en bleu, il a collé des posters de My Hero Academia et de One Piece, ses mangas préférés. Toute la journée, la télévision lui tient compagnie. Elle est là pour les séries, les jeux vidéo ou comme fond musical.
À l'heure actuelle, la seule passion qui nous reste, du coup, les voyages, c'est pas possible. Les sorties, c'est assez compliqué, mais c'est console de jeu. C'est le seul loisir que j'ai. Sinon, avec mon compagnon, on se fait des petites promenades juste dans le quartier pour arrêter un peu la tête. Même pour partir 3 jours, on n'arrive pas. J'ai des frais médicaux à payer, j'ai des factures à payer, plus le loyer à payer. Avec entre 1100 et 1200, on n'arrive pas trop.
Il y a un petit chat.
Deux.
Deux, c'est vrai.
Moon, un chaton au pelage gris, se frotte à ses pieds. Alors qu'il s'apprête à bondir sur un jouet télécommandé, quelque chose se faufile entre ses pattes.
Et bah, vous voyez. Hein.
Ah oui, c'est un cafard.
Oui, un cafard qui passe, qui est venu nous saluer. Depuis l'année dernière, je me bats avec les cafards. On a du mal à dormir parce que quand on dort, on sent des trucs qui marchent sur nous, on se réveille, on voit que c'est un cafard qui marche sur nous. Quand on a de quoi manger et tout, on ferme tout. Les cafards arrivent quand même à grignoter les sachets pour entrer à l'intérieur. On est obligé de jeter. C'est pas évident.
L'appartement est insalubre, dangereux même. L'an dernier, une prise s'est enflammée. Paradoxalement, la plus grande crainte de Steve, c'est de quitter ce logement. La fin de la trêve hivernale approche.
Je dois pas stresser, je dois pas angoisser, je dois essayer de rester zen, mais je peux pas. Je peux pas. Le mois de mars approche. Et à la fin du mois de mars, le courrier va arriver, il faut que je remette les lieux et je sais pas où aller. Mon compagnon même, il a même pas d'endroit aussi. Alors on est tous les deux, on se retrouve tous les deux à la rue.
Ça va faire 10 ans que Steve attend un logement social, mais son dossier est bloqué par ses impayés de loyer.
J'ai toute la bonne volonté, toute la bonne foi, je donne tout ce que j'ai comme argent pour le loyer. J'ai fait une demande FSL pour pouvoir payer la dette. C'est une aide de l'État qui a été refusée. Elle est montée à 6600 maintenant la dette.
Courir après les aides, demander de l'argent à ses proches, sauter des repas plusieurs fois par jour, Steve ne supporte plus cette situation, il désespère et résume sa condition en une phrase. Ce n'est pas une vie, c'est de la survie.
Un reportage signé Lou et Cal.
Le journal des Outre-mer.
Et on commence ce journal des Outre-mer par la justice en danger en Nouvelle-Calédonie. Tessa Gromane, bonsoir.
Bonsoir. Dans le nord de la Grande Terre, le tribunal de Koné va fonctionner en mode dégradé. Dans moins d'un mois, il ne restera qu'un seul juge sur les trois affectés à cette section détachée de la justice calédonienne. Conséquence, de nombreuses affaires sont renvoyées jusqu'en 2026 pour certaines. Samuel Bernard, avocat à Koné, tire la sonnette d'alarme.
Ça me fait peur parce que finalement, cette section détachée, elle est allée vers l'émancipation. Si on revient encore plus dépendant de Nouméa, on fait machine arrière et c'est pas le sens de ce qui a été tenté. C'est pas le sens de l'évolution. Depuis 15 ans, cette section, elle est passée de un magistrat à quatre et de deux greffiers à 11 greffiers, dont deux contractuels. Donc, c'était un petit tribunal. Si on revient à ce qu'était la section avant, on va avoir du mal à faire en sorte que ça devienne un vrai tribunal, c'est sûr. Ça m'inquiète parce que dans le même temps, on n'a plus de permanence gratuite de la province nord qui était à Point-d'Imier, à Koumac, etc. Donc, baisse de l'accès au droit, baisse de l'accès des justiciables à la justice avec toutes les difficultés qu'on connaît. Oui, c'est inquiétant et je pense qu'il faut quand même tirer la sonnette d'alarme.
Maître Samuel Bernard, interrogé par Camille Monnier, Nouvelle-Calédonie, la première. 43 millions d'aides d'urgence ont été votées ce mercredi par la région Réunion pour les sinistrés du cyclone Garance qui a dévasté l'île le 28 février dernier. 16 millions seront versés aux agriculteurs. On reste à la Réunion. Que vont devenir les 6 marins naufragés d'origine étrangère et rapatriés dans l'île en début de semaine? Leur bateau de pêche avait chaviré au large de l'île d'Europa. Ils sont actuellement placés en zone d'attente dans un hôtel de Saint-Denis. L'association Réunion Solidarité Migrants les a rencontrés mardi après-midi. Priscilla Etève.
Ils sont iraniens, pakistanais et bangladais, âgés de 40 à 72 ans. Ces 6 marins sont éprouvés et encore sous le choc après le drame qu'ils ont vécu. Certains sont même marqués dans leur chair, raconte Audrey Klaus, présidente de l'association Réunion Solidarité Migrants.
J'ai vu un monsieur qui avait encore des traces sur les bras, sur le torse, enfin sur tout le corps en fait, hein, des cicatrices qu'on imagine avoir eu lieu pendant le naufrage. Quoi.
Un naufrage au large de l'île d'Europa dans lequel auraient péri des pêcheurs. Mais les circonstances restent à éclaircir.
De ce que ce monsieur m'a raconté, ils étaient 10 au départ. Ils sont partis de Somalie sur un bateau de pêche. Alors a priori, ils ont fait naufrage il y a plusieurs jours. C'est un petit peu flou encore dans ce que j'ai pu comprendre, hein, les conditions du naufrage. Mais par contre, ce qu'ils m'ont raconté, c'est que 4 d'entre eux sont décédés lors du naufrage.
Selon Audrey Klaus, ces rescapés étrangers n'ont pas émis le souhait de demander l'asile pour l'instant. Mais hier après-midi, ils se concertaient pour décider de leur avenir. À la Réunion ou dans leur pays d'origine.
En Guyane comme ailleurs, la sensibilisation aux premiers secours fait partie intégrante du programme de troisième. Illustration au collège Paul-Jean-Louis à Saint-Laurent-du-Maroni. Terence Moy, Guyane la première.
Devant les élèves, la formatrice donne d'abord l'exemple.
Ouvre les yeux, Ishama, à l'aide!
Ensuite, elle donne les bons conseils pour réaliser une réanimation cardio-pulmonaire.
Je tends mes bras. Je verrouille.
Francesca Toussaint est élève en troisième au collège Paul-Jean-Louis.
On doit lui faire du bouche à bouche 2 fois et après, si ça ne fonctionne pas, on doit appeler les médecins et après, prendre le défibrillateur.
La formatrice propose une session par mois. En plus de ses activités d'enseignante, elle a augmenté la cadence depuis qu'elle s'est rendue compte de la nécessité de la formation. Mathilde Capellaer, directrice adjointe chargée de la SECPA.
Il y a un an et demi, on a vécu un événement devant le collège, traumatisant, et je me suis rendu compte que les élèves étaient souvent face à de la violence physique notamment. Ils avaient pour la plupart déjà entendu un coup de pistolet, déjà vu une plaie par balle, et en fait ça m'a choqué.
Les élèves repartent dès aujourd'hui avec leur certificat. Ils sont tous volontaires pour suivre cette formation. L'objectif est d'atteindre les 100% d'élèves ayant obtenu les certificats. Dans les faits, seuls 40% l'obtiennent à la fin de l'année.
Une douzaine d'élèves du collège Zaki Amadi de Dembéni à Mayotte reviennent d'un séjour sportif dans l'Hexagone. Ils participaient à un championnat de France de cross-country, un voyage sportif mais aussi de découverte, comme l'explique leur accompagnatrice, professeure d'EPS, Solène Salgado.
Eux, ils n'ont jamais quitté leur île, ils n'ont jamais vu l'aéroport. Vraiment, ils ne connaissent que leur village, quoi. Et de là, on a pris l'avion, déjà rien qu'à Paris. Quand on est arrivé, l'escalator, c'était rigolo. Toutes les lumières partout, les grands immeubles. En fait, tout les impressionnait parce qu'ils ne connaissent pas tout ça. Ils ont connu des auberges de jeunesse où ils dormaient tous ensemble dans des maisons en dur. Et c'était rigolo parce que vraiment tout ce qu'on leur montrait, bah, ils connaissaient pas. Ça faisait chaud au cœur parce qu'on les voyait souvent avec le sourire.
Un témoignage recueilli par Lou Suran. Bonne soirée.
Merci. Bonne soirée, Tessa Groman.
Le Conseil Santé avec Sunway Assurance.
Et on va se pencher maintenant sur ce qui reste un problème majeur de santé publique, les hépatites. Comment renforcer la lutte contre ces maladies infectieuses? Laurence Garcia nous en parle avec son invité.
Bonjour professeur Tariq Essela.
Bonjour madame Garcia.
Vous êtes professeur en hépatologie à l'hôpital Beaujon à Clichy dans les Hauts-de-Seine et directeur de recherche à l'INSERM, responsable des hépatites virales. Selon l'OMS, 4,5 millions de décès causés par cette inflammation du foie pourraient être évités dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires d'ici à 2030. D'où l'importance, j'imagine, encore de renforcer la vaccination contre l'hépatite B selon vous.
Oui, c'est très important de renforcer la vaccination contre l'hépatite B, une vaccination universelle et d'améliorer le dépistage de l'hépatite B et de l'hépatite C. On estime qu'il y a environ 250 millions de personnes porteurs de l'hépatite B, 50 millions à 80 millions porteurs de l'hépatite C. Et donc, c'est vraiment un problème majeur en santé publique.
Des porteurs qui peuvent être parfois seniors, hein, en plus. Hein.
Exactement. Dans la grande majorité des cas, c'est des maladies silencieuses. Et lorsqu'il existe des symptômes, c'est souvent trop tard. C'est parce qu'il y a eu des complications, comme le cancer du foie, qui finalement peut être fatal.
Il faut peut-être rappeler quand même qu'il existe un traitement qui guérit l'hépatite C aussi.
Oui, il existe un traitement, une très grande innovation. Ça a amené aussi au prix Nobel de médecine il y a quelques années, où on a des antiviraux d'action directe très efficaces. On prend une prise par jour, 2 mois ou 3 mois, avec quasiment 100% de guérison et pas d'effet secondaire.
C'est bon à rappeler.
Et pour l'hépatite B, on a des traitements aussi très efficaces, qui sont des traitements de maintenance, comme pour le VIH. On prend une prise par jour, ça évite les complications, mais c'est un traitement qu'on doit prendre à vie.
Traitement à vie, hein, il faut le rappeler.
Pour l'hépatite B.
Exactement. Merci beaucoup pour vos éclairages, professeur Tariq Essela, professeur en hépatologie à l'hôpital Beaujon à Clichy dans les Hauts-de-Seine. Le Conseil Santé, écoutez sur notre appli Pure Radio. Et dans Priorité Santé, on parlera d'un autre sujet, les ruptures amoureuses.
Et Priorité Santé, ce sera 1h10 temps universel. Merci Laurence Garcia. On touche à la fin de ce 24 heures en France. Bientôt, place à Afrique Soir. Merci à Fabrice Violet, la réalisation, et à Mickaël Ponge, la rédaction en chef. Un mot de sport, à Saint-Moritz-en-Suisse, ce sont les mondiaux de ski acrobatique et de snowboard. Et c'est la Française Perrine Laffont, 26 ans, qui a décroché la médaille d'or pour le ski de bosse. C'était quand même son 6e titre mondial dans la discipline. Bah écoutez, en attendant, on va partir à la bourse de New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Et c'est avec Pierre-Yves Dugas.
L'indice Dow Jones reprend 384 points et revient à 41 965. L'indice du Nasdaq s'offre 247 points et clôture à 17 751. Wall Street semble soulagé par la Banque centrale des États-Unis qui, comme beaucoup l'anticipaient, décide de ne pas modifier son taux directeur. Dans les anticipations anonymes publiées par les membres du comité, aujourd'hui, on note que les responsables de la Réserve fédérale tablent toujours, pour l'instant, sur 2 réductions de taux des Fed Funds d'ici la fin de l'année. La Fed ne semble pas croire à un scénario de forte hausse de l'inflation en raison de l'imposition de forts droits de douane. Jérôme Powell a rappelé que la Fed ne se sent pas pressée de modifier son taux directeur. Le patron de la Fed souligne que l'incertitude en matière de politique commerciale, réglementaire et fiscale est très élevée et l'effet net sur l'inflation et sur l'emploi des grands changements de politique économique en préparation à Washington est loin d'être connu. On note par ailleurs une belle hausse du cours de Boeing. L'avionneur indique que ses liquidités augmentent et qu'il progresse dans le redressement de sa production de modèles 737 et 787. L'euro retombe à 1,0898. Le baril américain de pétrole s'apprécie à peine et termine au-dessus de 67 $. Rassuré par la Fed qui voit beaucoup d'incertitudes mais pas de risques particulièrement élevé pour le moment de récession, l'indice Dow Jones regagne 0,9% et le Nasdaq grimpe d'1,4%.
Merci Pierre-Yves Dugas.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, faut-il réintégrer Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Guillaume Soro sur la liste électorale? Pour l'instant, ces trois personnalités ne peuvent pas se présenter à la présidentielle du mois d'octobre. Leur absence peut-elle provoquer des tensions? On en parle.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur le thème de demain.
Entreprendre en Afrique avec les conseils du coach Didier Akwété pour les jeunes diplômés. Et puis en deuxième partie d'émission, quel partage de la valeur dans les PME africaines avec les employés.
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.